Houston, oui. Merci. L'enregistrement est lancé, c'est bon? Il est en processus. OK, bien, de toute façon, quelques informations. Pour, oui, c'est ça, vous voyez, je sais qu'il y a des gens ici, vous êtes habitués de payer votre banc, hein, avec vos offrandes, comme on faisait dans le temps, hein, on payait notre banc avec notre dîme, puis là, on vous déstabilise. S'il vous plaît, coupez pas vos offrandes parce qu'on vous enlève votre chaise, là. Non, c'est une blague. Mais c'est parce que ce matin, Nina se fait baptiser, puis on a, juste pour cette famille-là, donc on a trois baptêmes, il y a 60 à 80 invités. Donc, il va y avoir un petit peu de bruit ce matin, on installe des chaises, déjà on se prépare pour passer une belle matinée de baptême. Ça va? Oui, oui. Je pense que oui. Si, je pense que oui, si tu as la bénédiction de Sylvain, tu es correct. Dave, est-ce que ça va pour l'enregistrement? Merci. OK, alors on se lance. Je suis désolé pour le petit bourdonnement que vous pouvez entendre dans la salle. C'est notre chauffe-eau. On s'est dit que pour Nina, 14 ans, on aurait pu faire un cold plunge. Mais pour... on a un monsieur de 74 ans qui se fait baptiser. Donc, on va essayer juste de le baptiser aujourd'hui, pas de le promouvoir au ciel. de le garder avec nous encore. C'est bon? On va aller ensemble dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour ta parole. Père, on te prie de nous aider à saisir ta révélation à travers ta création et de saisir aussi en Église ce moment de joie qui est celui des baptêmes, Seigneur, qui nous rappelle à tous qui sommes dans la foi, notre engagement à te suivre, à renoncer à notre propre vie, à trouver notre identité en toi, Jésus, dans ton œuvre. Comme enfant de Dieu, comme co-héritier avec Christ. Viens nous bénir ce matin, Seigneur, que le cours soit utile pour construire notre pensée, former en nous des cœurs d'adorateurs qui vraiment soient émerveillés devant toute ta création. Je te prie, Seigneur, de nous instruire ce matin en toi. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, étrangement, vers la fin du cours, on revient au début, à la création. On avait eu un petit boubou là, dans la cédule, puis c'est une doctrine qui est fondamentale. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'entendre quelques témoignages des astronautes qui viennent de participer au vol d'Artemis 2. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu des témoignages de foi? C'est assez touchant. D'ailleurs, il y a des plateformes de mouvements athées qui sont vraiment fâchées. Que ces gens-là aient témoigné de ce qu'ils ont expérimenté dans l'espace. Un des astronautes disait, « Je ne suis pas croyant, mais lorsque tu vois la Terre en étant comme ça, à l'extérieur de la Terre, c'est très, très, très difficile de ne pas croire. » Donc, il était bouleversé lui-même. Il dit, « C'est difficile de ne pas vivre une expérience spirituelle quand tu réalises à quel point cette situation, pas géographique, mais universelle dans l'univers, est unique. » C'est merveilleux. Donc, c'était vraiment touchant. Ça nous parle de la création, ça nous parle de la beauté de ce que Dieu a fait. Quel Dieu merveilleux nous servons, n'est-ce pas? Et nous connaissons. Et ce matin, on parle de la doctrine de la création. Thème central, Dieu a créé, je suis à la page 2 de nos notes, Dieu a créé toutes choses par sa parole, pour sa gloire, selon son dessein, et tout être humain ne comprend pas vraiment ni son identité, ni sa vocation en dehors de cette vérité fondamentale. Donc, toute personne qui ne croit pas que l'univers, la Terre et donc nous-mêmes avons été créés par un Dieu qui est Dieu, qui n'avait pas besoin de nous, qui est à l'extérieur de nous. Il ne nous a pas créés comme pour un besoin essentiel qu'il avait en lui-même. Non, c'est pour sa gloire simplement, pour manifester sa grandeur, sa bonté. Toute personne qui ne saisit pas ça, manque les fondements essentiels pour comprendre qui elle est, comme personne. C'est Calvin, un des théologiens, qui a dit « Comment est-ce que l'homme fait pour se connaître? Il le fait en commençant par connaître Dieu. » Et lorsqu'on cherche à l'intérieur de nous-mêmes pour nous connaître, on passe à côté de l'essentiel du fondement. À l'intérieur de moi-même, je peux avoir la pensée de Dieu. Vous voyez, en réfléchissant, je peux découvrir beaucoup de choses sur Dieu. Je ne vais pas découvrir Dieu en moi ou comme si j'étais Dieu, mais Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 1. Dieu a créé toutes choses par sa parole, pour sa gloire, selon son dessein, et tout être humain ne comprend pas vraiment ni son identité, ni sa vocation, c'est mal formulé, en dehors de cette vérité fondamentale. La doctrine de la création ne concerne pas seulement les origines, mais aussi la manière de vivre aujourd'hui devant Dieu. Donc, chaque jour, comme chrétien, je veux vivre, je veux regarder ce qui se passe dans ma journée, ce que Dieu me donne, ce que Dieu me reprend, à la lumière de la doctrine de la création, sachant que c'est le Créateur qui a mis ça. Hein? Souvent, on va dire « Merci, Père, pour la nourriture que tu m'as donnée. » Mais c'est avant tout ce Créateur-là qui a créé toute chose. Ce Père-là, c'est notre Créateur. Objectif global du cours, aider l'étudiant à comprendre que la création révèle la grandeur de Dieu, fonde toute la théologie biblique au commencement Dieu et le fondement de toute compréhension de Dieu. Premier verset de la Bible, au commencement Dieu, c'est le fondement essentiel de la connaissance de Dieu, d'une théologie qui est vraiment biblique, qui n'est pas le fruit de notre imagination. Et transforme concrètement notre manière de penser, d'adorer, d'exercer notre responsabilité. On va parler d'intendance ce matin. D'intendance. On n'est pas sur une terre qui nous appartient. J'ai beau m'acheter un terrain qui est reconnu comme étant ma possession par le gouvernement du Québec ou peu importe, on est toujours seulement des intendants. On s'est fait confier la gestion, la responsabilité sur certaines choses et de vivre dans le monde. Je vais tout de suite à la page 3. Comprendre la doctrine de la création. La création révèle un acte unique, divin et incomparable. La Bible présente la création comme un acte de Dieu que Dieu seul peut accomplir. J'aimerais ça vous encourager, ceux qui sont un petit peu sur les médias sociaux, qui avaient tendance à vous informer un peu avec YouTube, il y a un scientifique chrétien super intéressant, Stephen Mayer, M-E-Y-E-R, très intéressant. Je vous invite à aller l'écouter. Scientifique de haut niveau qui va discuter avec les scientifiques les plus qualifiés. Et ce qu'il défend, c'est la notion, anciennement, on parlait du « intelligent design », c'est-à-dire que la création ou l'univers où on vit a été « designé », a été conçu, ce n'est pas un accident. Et il le défend avec brio scientifiquement, puis il fait écho à ce que les Écritures disent dans ce sens-là. La Bible présente donc la création comme un acte que Dieu seul peut accomplir. L'homme fabrique, organise, transforme, Dieu, lui, crée à partir de rien. Donc ça, c'est vrai dans le domaine, admettons, est-ce qu'il y en a qui font de la peinture un peu ou du dessin ici? Pas de peinture, un petit peu, on s'est essayé de la poterie, des choses comme ça. Ou même l'écriture, mais c'est plus concret avec les arts plastiques. Les arts plastiques, c'est toujours l'association de choses qu'on a vues. C'est l'association de choses qu'on a expérimentées. Et donc, lorsqu'on parle de créatif chez l'être humain, en réalité, on ne crée jamais à partir de rien. On crée à partir de choses qu'on a vues, qu'on a senties, que Dieu a créées, lui à partir de rien, ou à partir de lui-même. Mais nous, c'est toujours des associations qu'on fait en création. En musique, c'est la même chose. C'est des sons qui existent, on ne crée pas des vrais sons, ils existent. Tout est là dans la physique pour pouvoir créer ces sons-là. Et nous, on fait des associations. Dieu crée. Même si on parle de création, on parle de créatif, en réalité, c'est ça qu'on fait. Et c'est une différence majeure. C'est une différence majeure parce que c'est comme si tout ce qu'on fait, lorsqu'on fait preuve de créativité, avec des idées, avec toutes sortes de choses, on est en train de dire quelque chose par rapport à Dieu. Parce qu'on part toujours des ingrédients que Dieu a créés. Comprenez, je parle toujours de choses réelles. Si je regarde un coucher de soleil et je le définis comme étant beau, c'est Dieu qui l'a créé. Puis là, ça va définir tout le concept de la beauté. La beauté, on va le définir souvent comme la lumière. Mais c'est Dieu qui a créé la lumière. C'est lui qui m'a fait expérimenter ces choses-là. C'est vrai dans ce domaine-là, parce que c'est très physique, on peut le comprendre. C'est d'autant plus vrai dans ce que nous sommes intérieurement, dans notre expérience abstraite, dans nos pensées à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Cette vérité devrait produire en nous la crainte, dans le sens d'un respect profond. De dire, OK, je ne suis que ça devant toi, Dieu. tout petit. L'émerveillement, l'humilité et l'adoration. Je devrais l'aimer. Après, quand tu comprends qu'il t'aime, tu le vois à travers la création, mais encore plus à travers Christ. Wow! Paul Tripp va dire à la page 196, « La vérité de la création devrait nous arrêter dans notre élan, nous remplir de crainte et d'émerveillement, nous humilier et nous faire tomber à genoux. » Vous m'arrêtez en levant la main si jamais vous voulez intervenir, vous avez des questions. Il n'y a pas de gêne si je ne vous vois pas. Faites-moi signe, là, puis on va amener vers vous un micro. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, quand on parle avec des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui n'ont pas la foi, des gens qui doutent de la Bible, le minimum sur lequel je veux insister, c'est au commencement Dieu. Je n'ai pas besoin d'embarquer dans tous les débats d'évolutionnisme et toutes ces questions-là. Honnêtement, c'est comme un piège pour nous d'aller là. On est le fruit de l'évolution, blablabla. OK, mais avant. Vas-y, prenons pour acquis que tu as raison sur tout ça. Mais avant. Puis avant ça. Là, quand tu regardes tout le fruit de l'évolution, est-ce que tu le trouves assez organisé? Puis tout ça, c'est le fruit d'un accident, en fait, de millions d'accidents ou de milliards d'accidents, et du néant, c'est ça que tu me dis. Moi, je vais t'émettre une autre hypothèse. Au commencement, Dieu. Avant le néant, puis avant tous ces accidents, il y avait un être, il y avait quelqu'un. Ça, je dois insister sur ça, lorsque je veux parler de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans les conversations sur l'évolutionnisme, tout ça. Honnêtement, c'est des questions secondaires. Je ne suis pas en train de dire que théologiquement, ce n'est pas important. Je suis en train de dire que quand je parle avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, ce que je veux, c'est au commencement Dieu. Parce que Dieu a organisé l'univers. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est central. La création place Dieu au centre de tout. Donc, quand je réalise que Dieu est l'auteur de tout, bien, Dieu est au centre de tout. Puis finalement, le péché de l'homme, c'est d'avoir pris la place de celui qui est au centre de tout. Tous nos péchés peuvent être retracés à ça. Dieu dit « fais ça, non, je ne le ferai pas ». C'est que je veux prendre la place de celui qui est au centre de tout. C'est lui qui a conçu toute chose. C'est quand même fou là, quand tu penses à la rébellion du péché. C'est Dieu qui a créé l'arbre qui fait pousser la pomme que je peux manger pour me nourrir. Puis là, Dieu me dit « je vais t'expliquer maintenant comment vivre ». Puis moi, je dis, je pense que je suis plus intelligent que toi. Dieu aurait pu dire, OK, je vais te placer dans un désert, nourris-toi pour quelques mois, puisque tu peux faire tout ça, puis on va voir. Dieu aurait pu faire ça. Puis dans un sens, c'est ça la malédiction. Dieu nous envoie dans un désert spirituel, puis il dit, allez vous inventer vos dieux. On va voir où ça vous conduit. Mais vous comprenez la folie, et c'est pour ça que la création est centrale. Simplement regarder l'univers puis réaliser à quel point je suis complètement dépendant de quelque chose qui est extérieur à moi, qui fonctionne depuis des milliers d'années de manière merveilleuse, qui nourrit des milliards de personnes. Puis dire non, mais je n'ai pas besoin de celui qui aurait conçu ça. Et c'est pour ça que je dis, je n'ai pas le choix de commencer par au commencement Dieu. Parce que les gens vont dire, mais c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est qu'il n'existe pas. Tout n'est qu'accident. Alors, il y a d'autres lignes d'argumentation si on voulait débattre. On n'ira pas là ce matin. La création place Dieu au centre de tout. Le récit de Genèse 1 et 2 n'est pas destiné d'abord à satisfaire la curiosité scientifique, mais à centrer notre regard sur Dieu. Il nous apprend qui est Dieu, qui nous sommes, et comment comprendre la réalité. Paul Tripp va dire, « Ces paroles définissent et expliquent tout. Elles te donnent une identité et une dignité. Elles définissent le sens et le but de la vie. Dieu est à l'origine de tout. » Là, je vais chercher en Dieu, pourquoi est-ce que je vis? À quoi est-ce que je sers? Pourquoi je suis sur la terre? Si Dieu m'a conçu, il y avait une raison. Il y avait un objectif derrière ça. Colossiens 1, 6, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. » Pour lui. Et là, dans ce cas-là, on parle de Christ, mais c'est Dieu. Tout a été créé pour Dieu. Pas pour nous, jamais. La doctrine de la création est fondamentale. Si Dieu n'a pas créé le monde, toute la théologie biblique s'effondre. La création n'est donc pas un sujet secondaire, elle est fondamentale. C'est pour ça que je vous dis, quand je parle avec quelqu'un, je n'ai pas le choix de dire, on va aller là, au commencement, Dieu. Si toi, tu vis dans un univers où Dieu n'existe pas, il faut que tu me construises une morale, il faut que tu m'expliques sur quoi on se base, comment on définit le bien et le mal. Est-ce que c'est juste des conventions sociales? Si c'est juste des conventions sociales, je ne sais pas pourquoi on a arrêté l'esclavage. D'ailleurs, il n'est pas arrêté, là, on s'entend. Il est arrêté dans bien des pays, mais pas dans tous les pays. Si c'est juste des conventions sociales, c'est peut-être très convenient d'avoir des esclaves, si c'était le plus fort. Mais pourquoi ça nous choque? Pourquoi ça nous offense? Parce que Dieu, tout simplement. La loi du plus fort, elle va continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On ne va pas réussir à l'abolir. Les despotes, les dictateurs, les abuseurs, il va toujours en avoir. Pourquoi ça nous offense? Parce que Dieu. C'est la nature ne nous enseigne pas que chaque être humain a une valeur, est un être saint devant Dieu, un être sacré devant Dieu, je veux dire. Vous savez que j'aime être dans la nature. La nature m'enseigne la loi du plus fort. La nature est très, très, très confortable avec la loi du plus fort. Vous comprenez de quoi je parle? Je veux dire, je vais à la chasse. Moi, je suis très peu cruel à côté de tout ce qui se passe dans la nature. J'aime pas voir les bêtes souffrir. J'ai aucun plaisir à ça et je les mangerai pas vivantes. Donc, c'est pas la loi naturelle ne nous enseigne pas ces choses-là. C'est que je commence avec Dieu. Parce que je commence avec Dieu, là, je vais déduire des choses. Puis je vais m'élever au-dessus de ce que quelqu'un qui est sans Dieu va concevoir de meilleur. On le dit souvent ici, mais un peu la folie de l'Occident, c'est que la philosophie profonde, notre vision du monde, nos valeurs profondes, découlent du judéo-christianisme. Et là, on pense qu'on peut s'émanciper, on peut se dégager de ça, puis garder des valeurs aussi riches. Ça, c'est la folie de l'Occident, à mon avis. Est-ce que tu as levé la main? OK. La doctrine de la création est fondamentale, au-delà et toute la structure de la théologie biblique s'effondre. On peut aller plus loin, moi je pense que toute théologie qui se tient s'effondre, mais toute théologie biblique s'effondre. Psaume 33, 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dieu est au centre de la création, est à l'origine de la création. Genèse 1 et 2 sont théologiques avant d'être descriptifs. Le texte biblique rapporte des faits historiques réels, mais dans une forme sélective et théologique. Le message est plus important que des informations scientifiques. Ce n'est pas le sens de Genèse 1 et 2. C'est vraiment un message. Dieu est créateur des cieux et de la terre. Dieu est à l'origine de toutes choses. Genèse 2 met l'accent maintenant sur l'homme et la femme. Donc, il y a deux messages dans Genèse 1 et 2. Dieu est au centre, Dieu est à l'origine. Puis ensuite de ça, l'accent dans toute la création est placé sur qui? Sur l'être humain. Et là, c'est lourdement contesté dans notre société. Là. On veut donner des droits moraux, par exemple, aux animaux. Peut-être bientôt la charte des droits et libertés des animaux. Mais c'est cette idée qu'on a perdu, cette idée que nous, on a été créés à l'image de Dieu comme des intendants sur la création. Donc, on a de lourdes responsabilités envers la création. Je ne suis pas de ces chrétiens qui disent, ben, tu sais, on s'en fout. Non, 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 pas du tout. Au contraire, amène à l'environnementalisme si c'est bien pensé, si c'est bien réfléchi, si ça ne dit pas que l'être humain devient complètement secondaire. D'accord? Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et donc, dans toute la création, c'est l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Le premier chapitre dit beaucoup sur l'univers, sur la personne de Dieu. Le deuxième chapitre dit beaucoup sur notre rôle dans la création. On a une responsabilité. Nous avons la plus grande responsabilité dans l'univers après Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image. Et donc ça, ça veut dire que si lui est créateur, nous, il va falloir qu'on lui ressemble, il va falloir qu'on soit à sa ressemblance. Je suis conscient que vous savez toutes ces choses-là. Oui? David?
Un deux. Tout à l'heure, tu parlais du scientifique Stephen Meyer.
Oui.
Mais il y a un autre scientifique chrétien qui s'appelle Hugh Ross, que lui, c'est un physiciste. Puis lui, il explique le moment de la création. Il croit que c'est Dieu qui a créé, oui, mais il croit en l'évolution. Stephen Meyer, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il croit exactement, mais ma question, c'est qu'est-ce que tu fais quand il y a des chrétiens qui vont dire que Dieu a créé, oui, mais par l'évolution, ou les chrétiens qui disent que Dieu a créé, mais genre instantané.
Mm-hmm.
Donc, je me demandais c'était quoi ta position là-dessus, parce que si tu dis que Dieu a créé par l'évolution, tu insères la mort avant la chute d'Adam.
Personnellement, je ne suis pas évolutionniste, mais les deux positions se trouvent maintenant chez les chrétiens. Puis quand on dit évolutionniste, le gros débat minimum, c'est de reconnaître qu'il y a un premier homme, une première femme, Adam et Ève, qui sont des personnes. Si tu ne vas pas là, il y a beaucoup de choses qui tombent pour qu'on soit responsable devant Dieu.
Ils sont des personnes, mais que Dieu ait créé l'homme et la femme complètement...
Qu'il les ait créés...
Il ne les a pas créés à travers un processus de millions d'années...
Ce n'est pas ce que je crois, puis je ne pense pas que les évidences scientifiques vont dans ce sens-là non plus. Personnellement, je ne crois pas que Adam et Ève sont le fruit de l'évolution. Mais le minimum, pour que je puisse m'entendre avec un chrétien, c'est qu'ils reconnaissent que lorsqu'on dit que l'homme et la femme sont créés, c'est qu'on est rendu avec des personnes, des personnalités qui ont existé, qui sont responsables par leurs péchés, de tous nos péchés. Ça, c'est le minimum sur lequel on doit s'entendre. Autrement, j'ai un gros problème. Pas mal, tout le salut vient de tomber, là. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Ben, ma question, c'est plus... Y a-t-il une position qui est fausse, puis y en a une qui est vraie?
Ma position est toujours la position vraie. Et les autres sont toujours fausses. Mais je peux vivre avec les gens qui sont dans l'erreur.
Mais c'est quoi ta position là-dessus?
Ma position, c'est que je ne crois pas dans l'évolution du tout. Je crois que Dieu a créé l'homme instantanément. C'est ça que je crois. Mais ce que je dis, c'est que toute la théologie biblique ne tombe pas nécessairement si je crois qu'il y a une évolution jusqu'à un premier homme, une première femme réelle, des personnalités, Adam et Ève. J'accepte qu'il y a des gens qui vont croire à cette évolution-là. Je ne crois pas que c'est ce que les Écritures enseignent, et je ne crois pas qu'il y a les évidences scientifiques pour défendre ça. Mais ça ne fait pas nécessairement tomber toute la théologie. J'ai répondu à ta question?
Oui.
Merci. Il faudrait parler dans le micro, s'il vous plaît. Surtout que j'ai une oreille complètement bouchée ce matin, j'ai une otite, là, et j'entends juste d'une oreille.
Ce que je disais, c'est qu'il faut peut-être considérer la macro et la micro-évolution, dans le sens que, d'accord avec toi, que Dieu a créé toute chose, créé l'homme et créé la nature aussi. Mais, exemple, il n'a pas créé toutes les sortes de chiens, par exemple.
Absolument.
Tu comprends ce que je veux dire? Qu'il y a des catégories, ou je ne sais pas comment les définir, là, au niveau génétique.
Oui, il y a des changements génétiques.
C'est des changements génétiques, mais des changements génétiques qui ne peuvent pas se faire. T'sais, on ne verra pas un cheval avec une tête d'homme, par exemple.
Oui, ouais, 100 %.
Il y a des changements, mais Dieu a créé toute chose, mais à l'intérieur de sa création, il a permis, je pense, des micro-évolutions, mais ils n'ont pas tout créé.
Perdu, puis peut-être créé d'autres aussi. Oui, ouais. Il y a des micro-évolutions qui sont là, puis je pense même que c'est moralement acceptable. Il y a quelqu'un d'autre qui a une main levée. Je pense même que c'est moralement acceptable qu'on participe à ça. Donc, le breeding, personnellement, chez les animaux, chez les chiens, j'ai absolument aucun problème avec ça. Je pense que ça fait partie de notre intendance. Si ça les fait souffrir, c'est une autre histoire, là. Mais c'est ça. Karine, je voudrais pas, par contre, passer le cours là-dessus parce qu'on a des leçons plus pratiques à retenir, mais ça me fait plaisir de prendre quelques minutes.
Bien, je voulais dire justement qu'il y a un cours qui avait été donné il y a des années à l'Église par Mathieu qui est accessible en ligne.
Ah, donc, merci.
Ceux qui sont intéressés et ce dont tu parles, c'est la sélection naturelle qui était ce qu'un chrétien devrait croire. Donc, ouais. Il ne faut pas dire que tout. L'évolution, c'est accaparer la sélection naturelle qu'on voit dans les fossiles et tout. Puis eux, ils disent que c'est l'évolution. Non, non. L'évolution et la sélection naturelle, c'est deux choses différentes.
Ce qui est apparu de nouveau dans les 10 ou 15 dernières années, c'est que vous allez avoir des gens qui ont une. Qui auraient la même confession de foi que nous, donc des gens que moi je considère comme chrétiens, puis qui vont admettre une possibilité d'évolution avant que l'être humain, dans sa personnalité, Adam et Ève, existe. Et ça, c'est plus récent, c'est présent. Ça ne semble pas rejeter toute la théologie biblique. Personnellement, j'y adhère pas, je ne pense pas que c'est bien défendu du tout, mais c'est ça. Donc ça, c'est comme un développement. Maintenant, si quelqu'un dit non, même Adam et Ève ne sont que le fruit de l'évolution. Il n'y a pas eu, tu sais, admettons, c'est un mythe créatif et les noms de ces deux personnes-là sont même, c'est juste pour faire figure de homme et de femme. Mais là, j'ai un problème parce que si toute la théologie du salut, qui dit qu'un seul est mort pour tous, repose sur le fait que la condamnation est entrée avec un homme dans l'humanité. Donc, Adam est notre premier père, Christ est notre second. Il nous amène dans l'éternité. Donc là, il y a des gros enjeux sur la notion du salut. Ça va? Je passe quand même au prochain sujet. Mais merci, Karine, tu fais bien de nous pointer vers cette ressource-là sur notre site web. Parlez fort si jamais vous voulez m'interpeller. Comme je vous dis, j'ai une oreille de complètement bouchée ce matin. Ce que la doctrine de la création nous enseigne, le but, Dieu a créé toutes choses avec un dessein précis. Cela signifie que le sens de la vie ne se trouve pas dans l'autodéfinition, le bonheur autonome ou la réussite humaine, mais dans la volonté du Créateur. Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est pour lui que sont toutes choses. Donc, quel est le sens de ma vie? À quoi est-ce que je sers? Pourquoi je suis sur la terre? Ça doit trouver sa réponse à l'intérieur de ce cadre-là. Vous voyez, je prends le verset Romains 11, 36, et le but de ma vie doit rentrer à l'intérieur de ça. C'est comme le cadre qui contient ça. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Donc, toute ma conception de ma vie, du sens de mon existence, pourquoi est-ce que j'existe, à quoi je devrais servir sur la terre, qu'est-ce que je devrais faire, tout ceci trouve sa réponse à l'intérieur de ce cadre-là. Déjà, je peux dire, je pourrais commencer toujours en disant, bien, pour Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais vivre? À quoi est-ce que je devrais servir? À la gloire de Dieu. C'est toujours à l'intérieur de ça. Parce que Dieu a créé l'univers pour sa gloire, pour lui-même. C'est ce qui offense les gens qui voient ça comme un acte égoïste de la part de Dieu. D'accord? La propriété, Dieu possède ce qu'il a créé. Le monde lui appartient. Notre vie lui appartient. Nos capacités lui appartiennent. Nous ne sommes pas propriétaires, mais intendants. Et ça, je veux vous encourager à intégrer ça dans votre vision de vos dons, vos talents, votre argent, le temps qui vous est donné, qui vous est accordé. Nous sommes des intendants. C'est-à-dire qu'on gère la maison de quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez, c'est Joseph qui est intendant. Il est appelé à bien gérer, à bien administrer. Mais mon temps, les journées que j'ai devant moi, les heures que j'ai avant de me coucher, mes pensées, l'espace dans mon esprit, l'argent qu'il y a dans mon compte de banque, ma capacité à faire de l'argent, mes ambitions, tout ça appartient à Dieu. Parce que j'ai été créé pour ça. Alors évidemment, quand tu l'acceptes, c'est merveilleux parce que ça t'oriente. Puis ce que Dieu fait est glorieux, c'est beau. Si j'ai été créé pour ça, puis que je me réalise dans ce cadre-là, écoute, je vais être conforme à ce que je suis moi-même, je ne serai pas en contradiction. Donc, la grande ironie, c'est de dire à nos jeunes à l'école, il faut que tu trouves en toi-même qui tu es, pourquoi tu existes, puis ce que tu es appelé à faire dans l'univers. Mais s'ils cherchent en eux-mêmes, au lieu de chercher en Dieu, ils vont être en contradiction avec ce qu'ils sont. Et là, ça crée des désespoirs terribles. Ça commence à sortir hein, tranquillement là, dans les médias, toute la question trans, tout ça. Puis, OK, transition, puis qu'est-ce qui se passe après? C'est le bonheur? Ça commence à sortir. Là. Il y a des grosses remises en question. En Angleterre, ils ont fermé des hôpitaux qui faisaient des interventions. Donc, il y a une remise en question. On commence à dire peut-être qu'il y a un délire. Oui, une sensibilité à ce que les gens vivent, mais en même temps, les solutions sont peut-être pas intelligentes. La propriété. Dieu possède ce qu'il a créé. Une vie bien reçue est une vie bien vécue est une vie vécue dans la compréhension que tu ne t'appartiens pas. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout est à Dieu. L'autorité. Puisque Dieu est le Créateur et le propriétaire, il est aussi l'autorité suprême. Toute autorité humaine est déléguée, représentative et redevable devant lui. Ça veut dire beaucoup de choses, cela. Parce que ça peut vouloir dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autorité. Lorsqu'on aborde la question de la peine de mort, ça relève directement de cette question-là. Est-ce que l'État peut avoir l'autorité sur la vie de celui qui enlève la vie? Ça relève directement de cette question-là. Puisque Dieu est le Créateur et le propriétaire, il est l'autorité suprême. Toute autorité humaine est déléguée, représentative et redevable devant lui. Donc, c'est Dieu qui me donne une autorité. Elle est là pour représenter Dieu. Je suis un délégué, je suis l'intendant de Dieu dans ma vie, dans mon temps avec mes enfants. La manière que j'agis avec mes enfants, ma responsabilité, c'est de représenter Dieu auprès de mes enfants. Et je suis redevable à Dieu pour ça. Parce que je ne suis jamais en train de gérer mes choses, ni ma vie, ni mon temps, ni mon argent. Ce n'est jamais à moi. Ça appartient à celui qui m'a créé. Et je lui suis redevable. Romains 13, 1, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et des autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est exactement l'argument que Paul fait dans Romains lorsque Romains exhorte les chrétiens à se soumettre aux autorités. L'adoration. L'homme n'a pas seulement été créé pour accomplir certaines tâches, il a été créé pour adorer. L'adoration n'est pas une activité marginale, mais notre identité profonde. Lorsque Dieu dit qu'il a créé toutes choses, c'est une chose, mais lorsqu'il dit qu'il a créé toutes choses pour sa gloire, là, ça nous donne l'objectif, le but. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Fondamentalement, je ne suis pas simplement là pour respecter que Dieu a créé toutes choses puis vivre dans ce cadre-là, mais comprendre qu'il l'a fait pour sa gloire. Et là, ça parle d'être un adorateur, quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu. Apocalypse 4:11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Et donc, le but, c'est l'adoration. Ça doit provoquer chez nous l'émerveillement. C'est pour ça que dans notre vision d'Église, on a dit, notre prière, c'est d'être une Église émerveillée. Cette disposition-là d'émerveillement devant Dieu est au cœur de ce que c'est le christianisme. Parce que la plus grande merveille de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus-Christ et son œuvre. C'est la plus grande merveille de Dieu. Et donc, si je peux rester dans cette posture-là d'émerveillement devant l'Évangile de Jésus-Christ, avec tout ce que ça comporte, son amour pour moi, sa grâce, son amour pour l'univers, le fait qu'il vient racheter l'univers, va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je veux être dans cette posture-là d'adorateur. Je veux être humble devant lui, mais excité devant lui. Il doit y avoir cette attitude, cette posture de joie. Très dur d'être adorateur lorsqu'on est dans les larmes. Très difficile. C'est possible. Je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, on vit sur deux plans, hein, les chrétiens. Dans la joie, puis dans l'intercession. L'intercession se fait souvent avec larmes, parce qu'on vit dans un monde brisé. L'humilité. La création nous rappelle que nous ne sommes pas le centre. Elle détruit l'illusion de notre grandeur autonome et nous appelle à la dépendance, à la repentance et à la soumission. Le projet d'Elon Musk est un projet, je vais le dire comme ça, athée. Aller s'établir sur Mars. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas aller s'établir sur Mars. Hein. Dieu nous a placés dans l'univers. Si on peut occuper l'univers, je n'ai rien qui me dit qu'on ne devrait pas le faire. C'est pas ça mon point. Mais c'est une posture où on doit absolument prendre l'avenir de l'humanité en main parce que personne ne va venir nous sauver. Donc, Elon Musk, je l'ai entendu sur plusieurs podcasts, très sympathique à la vision du monde judéo-chrétienne. Une de ces personnes qui aime les valeurs judéo-chrétiennes à bien des égards, même si on reparlera de sa vie de famille, là, si vous le suivez, c'est assez spécial, là, monsieur. Mais donc, très sympathique à plein de valeurs judéo-chrétiennes. Mais son projet, c'est un projet athée, dans le sens que c'est un projet où on doit se prendre en main parce que personne ne va être là pour nous sauver. Ce n'est pas l'espérance chrétienne. Notre espérance, c'est que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et donc, Dieu va être là pour nous secourir. Je n'ai pas à me sauver de la terre. J'ai à me sauver du jugement éternel. Ça, c'est Christ qui le fait pour moi. Et donc, cette notion-là d'humilité, de dire, non, Dieu est au contrôle. Dieu est là, on n'est pas autonome. Le projet de Musk, c'est un projet d'autonomie. On voudrait être indépendant de la Terre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lui n'est pas allé sur Artemis 2. Peut-être s'il était allé sur Artemis 2, il aurait eu une autre expérience en regardant la Terre. Peut-être que Mars aurait été moins séduisant, je ne sais pas. Mais c'est un personnage vraiment fascinant, même si des fois il dit des drôles de choses là, sur X. La création nous conduit à la croix. La création, le récit de la création n'est pas isolé de l'Évangile. En révélant la gloire de Dieu et notre refus de vivre selon son dessein, il nous conduit à la nécessité de la grâce en Jésus-Christ. La création déchue, on sent qu'il y a un paradis perdu. Quand tu regardes la nature, ça sent et le paradis et le perdu. Quand tu regardes l'humanité, puis tu regardes ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain, ça sent et le paradis et le perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vois le plus beau, puis là, ça me dit... Puis la manière dont ça va s'exprimer, c'est comme par des rêves. Ça pourrait tellement être beau. Donc, il y a assez encore dans la création, évidemment, qui parle de Dieu, puis même dans la création qui est l'être humain, pour qu'on ait le goût de dire, ça pourrait tellement être beau. Tu sais, si tous les hommes, quand les hommes vivront d'amour, ça pourrait être beau, mais ça ne fonctionne pas. Et ça me parle de l'Évangile. Puis tous les projets politiques, les projets philosophiques que les êtres humains ont conçus, même ceux qui sont à l'origine le plus près du christianisme, le communisme de Karl Marx, c'est directement inspiré du christianisme. Sans l'essence, sans la puissance de l'Évangile. Et ça donne ce qu'on a vu, par exemple, en Chine, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de morts. Et en ex-Union soviétique, si vous étudiez l'histoire, les plus grands drames se trouvent là. On entend toujours parler des croisades et ces choses-là, mais il ne s'est pas passé grand-chose à côté de ces massacres-là au nom d'un un idéal sans Dieu. Là. Et je ne suis pas en train d'excuser l'histoire du christianisme dans ses côtés les plus sombres. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis juste en train de dire que quand tu exclus Dieu, quand tu sors de l'équation, où tu dis, mais ça pourrait être parfait, mais on va le faire sans Dieu. Mais ça te donne ces résultats-là. Ça te donne ces résultats-là. Il y aurait beaucoup à dire sur le communisme. La création dans la vie quotidienne. Vivre comme si nous ne possédions rien. Ça, c'est une belle idée. La doctrine de la création transforme la manière d'aborder le mariage, l'argent, la sexualité, le corps, les relations et les biens matériels. Tout change lorsque nous comprenons que rien ne nous appartient. Donc, j'ai 55 ans, je le dis souvent, hein, je travaille à rester en santé, je veux servir le plus longtemps le Seigneur. Mais si je le fais parce que, OK, ça c'est mon corps, tu sais, puis c'est toute mon identité, puis non, mon identité est en Jésus-Christ, ça va continuer jusqu'à temps que je meure, puis que je sois promu dans la gloire. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça ne doit pas servir à me glorifier. Ça ne doit pas servir à définir ma valeur. Ça ne m'appartient pas. La création dans la vie quotidienne, ce qu'elle m'apprend, c'est que rien ne m'appartient. Ça m'appelle à vivre comme un intendant. J'ai des talents. Ces talents-là me viennent de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 et 20, « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. » Là, ce qui est glorieux pour les chrétiens, c'est que ce que la création m'enseigne, l'Évangile vient comme le confirmer à la fois mille. Parce que là, je me tourne vers Christ qui est mort sur la croix pour moi. J'ai mon Créateur qui m'a créé, j'ai mon Sauveur qui m'a racheté au prix de son sang, au prix de sa vie. Et là, je dis, OK, je ne m'appartiens pas à moi-même. Je veux vivre pour lui. Quand moi, je me suis converti, c'était difficile pour moi. Je ne suis pas pasteur parce que si tu es chrétien, tu devrais comme travailler à temps plein pour servir Dieu, parce que tous les emplois qu'on peut faire sont tous à la gloire de Dieu, puis ils sont tous pour Dieu. Mais quand je me suis converti pendant un temps, c'était, je ne sais pas si vous avez vécu ça, c'était difficile pour moi de départager ces deux éléments-là. Quand je me suis converti, j'ai dit, OK, avant, moi, je ne servais pas Dieu, je me servais moi-même, je servais le diable, je servais mes passions. Là, il faut que je serve Dieu. Fait que tout ce que je voulais faire, c'était être dans la Bible et parler de Dieu tout le temps. Tu sais, l'idée de dire, je vais aller faire de la mécanique, c'est comme, quelle perte de temps. La doctrine de la création m'enseigne tout le contraire de ça, là. D'accord? Ce n'est pas une perte de temps, puis c'est absolument la gloire de Dieu. Je peux passer le balai à la gloire de Dieu, absolument. Mais quand je me suis converti, il y avait comme cette idée-là qui était là en moi parce que je réalisais que finalement, je dois juste me consumer à servir Dieu. Après, Dieu m'a éclairé en me montrant, non, attends un petit peu, justement, tu peux le faire en faisant n'importe quel type d'activité, si tu l'as fait pour la gloire de Dieu, absolument. Mais cette réalisation-là que je ne m'appartenais pas a changé ma vie. Ça a orienté tout dans ma vie. Et en fait, toutes les fois où je suis plus malheureux, puis que je reste dans ce malheur-là, c'est des moments où j'oublie que je ne m'appartiens pas, où je négocie avec Dieu. Mettons que, je ne sais pas moi, 22 heures sur 24, c'est clair pour moi que j'appartiens à Dieu, puis c'est à Dieu, mais je me garde un petit 2 heures pour moi. Cela, il est à moi, Seigneur. Des fois, je l'illustre avec la notion du repos. Tu sais, on vit dans une société, non plus de repos, mais une société de loisirs. C'est deux choses qui peuvent être ensemble, mais qui sont très, 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 très différentes. Le loisir ne procure pas nécessairement le repos. Il y a beaucoup de loisirs qui tuent le repos. Puis souvent, j'ai dit à l'Église, ce que vous devriez faire quand vous avez besoin de repos, ce n'est pas d'aller dans vos loisirs. C'est de prendre 15-20 minutes avec Dieu pour décider ce que vous faites pour vous reposer. Prends un petit temps de prière, va te reposer en Dieu, puis cherche la face de Dieu. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant pour me reposer? C'est peut-être continuer une série. C'est peut-être aller lire un roman. Tout est possible, jouer un jeu de société. C'est tout possible, il n'y a pas de problème, sortir au restaurant. Mais le repos est en Dieu. C'est lui qui est mon repos. Et donc, je vais commencer par me tourner vers lui. Et moi, j'ai observé dans ma vie, lorsqu'il y a des moments où, pendant 2-3 semaines, je perds de ma joie, c'est souvent qu'il y a des espaces dans ma vie, il y a des moments, soit des pensées ou des choses comme ça, dont j'ai cherché à reprendre la possession. Ça m'appartient, Seigneur. Fait que j'ai le droit de nourrir ces pensées-là. Ça m'appartient, Seigneur. J'ai le droit de me livrer à telle activité. Ça m'appartient, Seigneur. Je prends un break, je t'ai servi. Écoutez, moi, je suis pasteur, là, fait que la joke de dire « je sers 6 jours comme un fou », puis là, le lundi, je l'ai déjà dit à l'église plein de fois, la journée où les pasteurs pêchent le plus, c'est le lundi. Soyez assurés de ça. Parce qu'ils ont servi le Seigneur toute la semaine, puis là, ils prennent un break de Dieu. C'est terrible, là, ce que je dis, mais c'est ça la tentation. Mais vous la vivez, cette tentation-là, constamment. Tu rentres à la maison, les enfants sont là, tu es fatigué d'avoir travaillé, il faut que tu t'occupes des enfants. Puis là, c'est la petite enfance, fait que la routine, c'est 1h30 avant que tout le monde soit couché. Puis là, tu finis, puis il te reste 1 demi-heure, puis tu t'assois, puis tu commences à cogner des clous. Puis là, tu rentres en mode « mi ». Puis je comprends, il y a une fatigue. Donc, la fatigue est 100% légitime. La question, c'est où se trouve le repos? La fatigue est légitime, le repos est nécessaire. Mais le repos n'est pas dans moi. OK, là, ça m'appartient. C'est un « me time ». Bien, fais-en juste un, c'est toi et Jésus time, là. Puis après ça, tu décideras. Peut-être que tu t'en vas poursuivre une série, il n'y a pas de problème. Mais tu vas avoir été éclairé par ça. Puis là, tu vas dire, OK, Seigneur, on s'en va écouter une série ensemble. pas de trouble avec ça, moi. Honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Jésus est avec moi dans toutes mes activités. Quand je grimpe un mur, Jésus est avec moi. Quand je suis à la chasse, Jésus est avec moi. La vie est une guerre de gloire. La création, je suis au point B à la page 6, la création est bonne et belle, mais elle n'est pas le sauveur. Le péché nous pousse à chercher dans les choses que Dieu a créées, ce que le Créateur peut donner. Vous avez déjà entendu cette image-là. C.S. Lewis l'a très, très bien développée. Et je pense que c'est Lewis qui disait le drame, dans un de ses romans, il disait le drame, c'est que les gens jouent dans une petite mare debout, puis Dieu veut les amener vers l'océan pour se baigner. Mais il dit non, non, touche pas, enlève-moi pas de là, j'ai trouvé ma mare de boîte. Au lieu de laisser le Créateur me conduire dans ce qu'il y a de glorieux. Et c'est parce qu'on prend des petits plaisirs de la vie, puis on en fait le centre. C'est pour ça que je vous dis, la théologie du loisir puis du repos, c'est vraiment quelque chose à travailler dans vos cœurs puis à clarifier. Et à partir du moment où je prends quelque chose que Dieu a créé, qui est extraordinaire, qui peut vraiment faire des choses incroyables pour la gloire de Dieu, dont m'apporter un repas excellent sur la table, une bonne bouffe, une bonne bouteille de vin, n'importe quoi. Mais si j'en fais le cœur, si ce n'est pas un acte de reconnaissance, si ce n'est pas un acte d'intendance, c'est là le problème. C'est là qu'est le problème. Donc, la vie est une guerre de gloire où on cherche à usurper à Dieu la gloire. Et notre vieil homme veut continuer à faire ça. Notre vieille nature veut continuer à faire ça. Quand je suis offensé parce que quelqu'un s'en prend à ma réputation, il ne me respecte pas, c'est une guerre de gloire. OK, on m'a manqué de respect. Je suis un intendant de Dieu. La personne a péché. La personne s'est exposée. Tu sais, quelqu'un qui te méprise, elle te parle de lui plus qu'elle te parle de toi. Mais là, toi, tu fais de toi le centre. Tu sais, j'ai été méprisé. Mais as-tu péché? Non, je n'ai pas péché. Mais c'est merveilleux. Fait que la personne a péché, je devrais avoir de la compassion, c'est elle qui a péché. Oui, mais elle a péché contre moi. Ça, c'est pas acceptable. OK, c'est parce que ça t'arrive pas. Vous comprenez? C'est une guerre de gloire. Mais si je veux la gloire de Dieu, je vais vers la personne, puis je dis, écoute, je pense pas que tu reflétais Christ là-dedans. Là. C'était pas génial. Oui?
Est-ce que tu es en train de dire que si j'ai le désir d'aller faire un jog, aller jogger, mais je n'ai pas pensé, je vais aller jogger dans le but de glorifier Dieu, mais parce que j'ai le goût d'aller jogger, est-ce que tu es en train de dire que parce que j'ai le goût d'aller jogger sans penser à Dieu, je suis après péché?
Pas du tout. Merci.
Donc, le désir que j'ai d'aller jogger ou d'aller faire de la bicyclette, de jouer un jeu de société sans nécessairement réfléchir à dire « Est-ce que Dieu, tu veux que j'aille jouer un jeu de société? »
C'est pas nécessairement
un péché. Est-ce que tu veux que je me brosse les dents? Est-ce que...
Non, c'est ça. J'ai pas besoin de dire Jésus à chaque respiration. Mais lorsque je vois dans ma vie des comportements compulsifs qui sont poussés par un espèce de sentiment, là, j'ai besoin de penser à moi. Là, j'ai besoin de fuir. Là, j'ai besoin de ça. Probablement que je devrais me poser la question, dans le fond, est-ce que j'ai plus besoin de Jésus? Fait que je parle surtout de comportements comme compulsifs. Il y a plein d'activités qu'on fait qui sont réfléchies. Moi, j'ai intégré le sport à partir de 40 ans dans ma vie. C'est omniprésent. Là. Je fais 7-8 heures de sport minimum par semaine. Mais c'est réfléchi. C'est pas, c'est quelque chose où, sans problème, si Jésus me dit, non, prends un temps de prière et ne va pas grimper à soi. Ça se peut que j'ai un petit « Oh, j'aurais aimé ça prier, mais je sais que ça va être meilleur avec toi. » Je laisse David finir, puis on va s'user.
En fin de compte, c'est d'être conscient des raisons pour lesquelles on fait les choses. Puis si je suis conscient que je fais une chose pour éviter de me reposer en Dieu, c'est là où tu es dans l'erreur.
Oui.
Donc, si tu vas faire un jog, mais ce n'est pas parce que tu veux fuir une responsabilité ou d'enterrer... la pensée que faudrait que je me confie en Dieu, mais non, je vais faire un jog pour éviter.
Exact. Puis moi, je vais vous donner un truc pratique, là, puis si tu veux amener le micro à Suzy, elle avait une question. Je donne un truc pratique. Dans toutes ces activités-là, est-ce que vous pouvez avoir spontanément ou assez naturellement le goût de dire merci Jésus. Fait que là, je vais donner un exemple très, très cru. C'est difficile d'imaginer consommer de la pornographie puis dire merci Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va? Mais je peux faire du jogging puis dire merci Seigneur, j'ai la santé, c'est tellement hot. Fait que, est-ce qu'il y a l'espace pour que je dise merci Jésus? Tu binges sur ta série sur Netflix, il est rendu 1h du matin, tu travailles demain matin. Est-ce que tu dis « Ah, merci Jésus! » Tu sais, c'est un petit test pratique. Si ça s'accompagne de « Merci Jésus », déjà, tu as probablement un indice de quelque chose de positif. Suzy, tu vas avoir la dernière question, puis je vais faire la même chose que la dernière fois. Je ne vais pas finir ma leçon.
C'est juste une réflexion.
OK, vas-y.
C'est que j'ai l'impression que si on a en tête qu'on appartient à Dieu et qu'on est intendant de notre temps, de notre...
Est-ce que vous entendez, c'est assez fort?
Oui.
Oui, OK.
Donc, je pense que c'est toujours de se poser la question, quel est le but réel de mon action? C'est comme tu disais, de faire du sport, même si il y a une portion de conserver ta santé et la raison pour laquelle tu le fais, mais tu pourrais le faire pour ton apparence physique et non pas pour la gloire de Dieu. Fait que c'est toujours de regarder pourquoi je le fais.
Oui.
C'est quoi le but? Et ça, si on est honnête envers soi, puis nos choix, puis nos priorités, ça va tout changer.
Oui.
C'est juste ça que je voulais dire.
Puis exactement, même l'apparence physique, hein? Même l'apparence physique. Dans le sens que prendre soin de ma santé, ça fait partie de chercher à glorifier Dieu. Puis on n'a pas tous les mêmes facilités. Là. Moi, je viens d'une famille où j'ai vu ma mère lutter avec le surpoids toute sa vie. Donc, on n'a pas les mêmes dispositions. Mais même l'apparence physique, je peux le faire pour des très mauvaises raisons, mais je peux le faire pour la gloire de Dieu aussi. Je peux communiquer que, ben oui, je pourrais peser 100 livres de plus sans problème, mais je veux faire preuve de maîtrise de moi. Donc, c'est quoi le motif? Mais ça pourrait être aussi très, très vain. Vraiment pure vanité, juste d'apparence. Je m'arrête ici, les amis. Vous avez des notes très explicites pour les 3 prochaines pages. Je m'excuse. Puis on va se préparer pour la belle matinée de baptême qu'on a devant nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est merveilleuse et elle est pratique. On est en train de dire ce matin que la doctrine de la création est pratique. Je te prie, Seigneur, de nous aider à voir nos vies, notre temps, notre argent, notre santé, nos biens matériels, les voir comme des intendants, comme des choses, des ressources, une vie que tu nous prêtes pour te glorifier. On te prie aussi, comme chrétiens, de nous aider à avoir un bon témoignage à l'égard de la nature, Seigneur, de la création. Il y a une sensibilité dans la culture, à prendre soin de l'environnement. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment bien. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles, à prendre soin aussi. À reconnaître les premiers que ta création est merveilleuse, Seigneur, et qu'on veut en prendre soin. Merci, Père, pour ces moments de réflexion en Église, ces cours qu'on peut faire. Enrichis-nous en toi, afin qu'on soit des chrétiens intelligents et des adorateurs passionnés. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Merci. Vous pouvez, si vous êtes intéressé par ce que